L'Église de la Victoire du Québec vous présente un message de victoire enseigné par un de nos orateurs invités. Nous prions que vous recevrez la révélation qui vous permettra de découvrir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants.
On a le privilège aujourd'hui d'avoir avec nous la sœur Audrey Mac. Comme je vous ai dit, c'est une femme de Dieu qui se promène partout à travers le globe. Elle habite en Floride. Elle est d'origine française, mais le Seigneur l'a appelée à faire du ministère auprès de son propre peuple, la francophonie. Et puis, la dernière fois que notre sœur Audrey était ici, le peuple de Dieu a vraiment été béni et encouragé, stimulé dans la foi. Et puis aujourd'hui, on va le déclarer encore une fois qu'on va être super béni. Combien d'entre vous, vous êtes super bénis? Amen. Gloire à Dieu. On va l'accueillir chaleureusement, notre sœur Audrey Mac. Si on peut l'accueillir avec vraiment beaucoup d'enthousiasme. Amen. Gloire à Dieu. Bienvenue, Audrey. Soyez bénie.
Pasteur Joël, merci. Alléluia. Alléluia. Oh, c'est tellement bon d'être dans la présence du Seigneur. Amen. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Combien d'entre vous, vous êtes dans l'expectative, vous attendez d'entendre une parole du Saint-Esprit? Ah. Et moi, vous dites, mais Audrey, pour comment, tu toi qui prêches? Ben oui, moi-même quand je prêche, je m'attends à ce que le Saint-Esprit nous révèle de nouvelles choses. Amen. Hallelujah. Alors, avant de commencer, je voudrais partager avec vous quelques petits témoignages, pas trop, mais juste quelques-uns, pour vous montrer, comme pasteur Joël disait, que oui, Dieu, il guérit toujours, aujourd'hui, ici, n'importe où, tout le temps. Vous voyez, même, c'était hier, je pense, hier ou avant-hier, je perds les jours, des fois, je sais plus quel jour, quel mois, quel où je suis, dans quel continent. Mais bon, c'était un ou deux jours, je sais plus. J'étais avec le ministère d'enseignement et on a télévisé le témoignage d'une jeune femme qui était du Burundi. Il y a à peu près un an de ça, j'étais en Afrique au Burundi et cette jeune fille, elle vit au Canada. Elle est votre voisine là, pas très loin, à Montréal. Et ben cette semaine-là, elle venait juste pour visiter sa famille qui était au Burundi. Et cette semaine-là, j'étais là-bas en train de faire une conférence sur miracles et guérisons dans l'église de pasteur Isabelle et Olivier Derain. Et donc, pendant plusieurs jours, j'ai enseigné la parole sur la guérison. Et cette jeune femme était là avec sa famille. Elle assistait à toutes les réunions. Et je crois que c'est une ou deux semaines plus tard, elle a reçu un diagnostic où elle était complètement surprise, qu'elle avait le cancer des ovaires. C'était stage niveau 4. Et immédiatement, le docteur lui a dit, on doit retirer cet ovaire qui est infecté. On doit l'enlever, on doit le faire très vite, parce que ça se répand très vite. Donc, elle s'est fait opérer. Et juste après, sa famille et elle se sont réunies et se sont dit, mais on a entendu la parole, l'enseignement, le message de la guérison et le témoignage d'Audrey Mac, qu'elle a été guérie du cancer des os. Alors, ils se sont mis en famille, ils ont prié. Même sa petite sœur, qui était toute jeune, qui a dit, ah ben tu te rappelles, on nous a appris comment prier pour les malades. Alors, sa petite sœur a mis les mains sur elle et a prié pendant un petit bout de temps. Amen. Et bon, et après, elle a dit à sa mère, elle a dit, moi, non seulement je crois que Dieu va me guérir, mais Dieu va me remettre, me restituer, me redonner cet ovaire qu'ils m'ont pris. Elle dit, je suis trop jeune, je veux des enfants. Et sa mère lui a dit, mais écoute, ma chérie, peut-être tu vas un petit peu trop loin là. Elle voulait pas qu'elle soit désillusionnée, n'est-ce pas? Donc sa mère a dit, oui, je serais tellement contente si tu es guérie, mais alors là, peut-être que tu vas un petit peu trop loin, ma chérie. Et la jeune fille a tenu bon, dit, non, je crois que Dieu est puissant, que Dieu, non seulement il me guérit, va me redonner cet ovaire. Et c'est bien sûr, elle a refait des examens, et les docteurs au Burundi ont dit, on comprend pas, peut-être que nos machines sont cassées, parce que moi, je sais, j'ai vu, j'ai retiré votre ovaire, je sais que vous avez le cancer. Et là, les examens disent que vous n'avez plus rien. Alors, mes machines doivent être cassées. Alors, dit, écoutez, c'est plus sûr, je vais vous envoyer en Inde. Donc, ils l'ont envoyé en Inde pour faire des traitements, pour faire d'autres examens. Elle a atterri en Inde, chez le docteur, et le docteur lui a fait faire tout un tas d'examens. Elle l'a appelé dans son bureau, dit, madame, je voudrais vous poser une question. Pourquoi êtes-vous venue me voir? Ben, parce que on doit me faire des traitements. Il me dit, vous en avez pas besoin, vous êtes en bonne santé et vos ovaires sont parfaits. Elle a dit, mes ovaires? Il dit, oui, vos ovaires. Elle a dit, mais docteur, vous êtes sûr? On m'en a enlevé un. Et bien sûr, le docteur dit, oui, regardez, on voit une petite cicatrice sur un des deux ovaires, mais vous avez les deux ovaires. Elle a appelé son docteur en Afrique, elle dit, vous êtes sûr que vous n'êtes pas trompé, docteur? Vous m'avez vraiment enlevé l'ovaire? Il lui dit, bien sûr, oui, il est sûr, dans un bocal, ici, dans mon bureau. Et donc, la jeune fille, elle est venue pour partager. Vous voyez, Dieu guérit. Dieu peut même vous recréer un membre que vous avez perdu, que vous recréer. Alléluia. Je vais vous lire deux, trois petits autres témoignages pour vous inspirer, amen, pour vous positionner dans une position où vous dites, ah, ce que Dieu a fait pour eux, ce que Dieu a fait pour eux, Dieu va le faire pour moi. Dieu l'a fait pour nous. Amen. Écoutez bien ce petit témoignage-là. Alléluia. Ça s'est passé à Paris. C'était il y a à peu près 2 ans de cela à Paris. Je suis arrivée à Paris, ils m'ont amené une toute petite enfant de 4 ans. Cette petite fille de 4 ans avait été adoptée. Amen. Et elle avait souffert d'une sévère méningite. Et qu'il avait laissé ses ondes cérébrales complètement perturbées et chaotiques. Et du fait qu'elle avait un côté de son corps qui était paralysé déjà. Et donc, la seule manière que cette petite fille pourrait être, que l'adoption serait finalisée, les docteurs lui ont dit elle a trop de problèmes, on va devoir lui faire faire tout un tas d'opérations. Et donc cette dame, elle était là à la Réunion à Paris et elle a entendu le message. Donc elle et son mari sont venus avec la petite Sarah et ils m'ont dit prier pour elle. Et je dis, oui, je suis prête à prier pour elle, mais encore mieux que ça, parce que vous m'avez entendu enseigner, et vous, papa, vous avez plus d'autorité sur cette petite fille que moi j'en ai. Alors, vous m'avez entendu enseigner comment exercer votre autorité, papa. Oui, il m'a dit d'accord. Alors, j'ai prié, j'ai imposé mes mains sur la petite Sarah, mais le papa, il a lui aussi exercé l'autorité que Jésus lui avait donnée, et il a imposé ses mains sur cette petite Sarah. Et c'était 2 semaines plus tard, la maman a insisté, est retournée chez le docteur, a insisté qu'il refasse des examens. Et le docteur m'a dit, on n'a pas besoin, on sait ce qui se passe avec elle. On sait que ses ondes cérébrales sont complètement perturbées. Elle a dit, j'insiste, on doit refaire un autre examen. Bref, ils ont fait, vous connaissez la suite. Et les docteurs ont vu que ses ondes cérébrales étaient 100% parfaites. Amen. Et ce qui est encore mieux, je suis revenue à l'église 1 an plus tard et la maman qui me donne le témoignage en me disant que Sarah, elle est complètement guérie, elle me dit, maintenant on a du mal à la trouver, elle court partout. Elle était partout dans l'église, on n'arrivait pas à l'attraper. Elle avait tellement d'énergie. Magnifique petite fille de 4 ans. Alléluia. Les docteurs ont dit, elle va être un légume. Le docteur avait diagnostiqué, a dit, cette petite fille ne va jamais vivre une vie normale. Son cerveau est complètement perturbé, son corps commence déjà à être paralysé, elle va être comme un légume. Attendez-vous à ce que vous deviez la nourrir pour le reste de sa vie. Voyez ce que Dieu a fait. Cette petite fille est magnifique, elle court partout. Alléluia. Écoutez, vous en voulez un autre? C'est une église internationale, je vois. On me répond dans tous les langages. Alléluia. Écoutez cela, ça vient des Indes. Ça vient des Indes. J'étais dans un collège biblique en Inde et cette jeune femme était assise là, elle dit, je souffrais de maux d'estomac réguliers et d'indigestion pendant pas mal de temps. Mes constantes visites chez le médecin n'aboutissaient à rien, me laissant frustrée et en colère. Je connais la parole de Dieu et les promesses de guérison, mais ça m'a pris environ 7 mois pour réaliser ce qui n'allait pas. Merci à Dieu pour Audrey, parce que dès qu'elle a prêché et prié, j'ai réalisé que je regardais plus à mes symptômes plutôt que de regarder à Jésus, ce qu'il avait déjà fait pour moi. Le témoignage d'Audrey, simple, sans complications, et son enseignement ont fait que la guérison soit une réalité pour moi. Alors qu'elle prêchait, j'ai pu croire, et là, sur ma chaise, j'ai pu recevoir ma guérison par la foi, et je savais que j'étais guérie de toutes mes douleurs, à ce moment précis. Je suis retournée chez le médecin pour mon examen et la même personne qui voulait que me faire subir toutes sortes de procédures médicales n'avait rien à dire, mais seulement que tout allait bien, qu'il n'y avait absolument plus de problème. Amen. Un monsieur des États-Unis, de l'État de Cincinnati, la ville de Cincinnati, il a dit « Merci beaucoup pour votre message sur la foi. Je souffrais d'une maladie d'estomac pendant près de 7 ans. J'avais prié pour ma guérison, mais mes actions n'étaient pas parfaitement en ligne avec ma foi et ma confession. Au cours du message, j'ai reçu une plus grande révélation et une révélation beaucoup plus profonde. J'ai commencé à bien agir selon ma foi. J'étais totalement guérie et libre de tout symptôme en moins de 36 heures. Maintenant, je peux manger des aliments épicés, boire de l'eau sans me réveiller pendant toute la nuit et sans douleur. Et je remercie Dieu pour ses promesses et de sa fidélité. » Amen. Une dame maintenant du Vietnam, et ce sera le dernier. Une dame du Vietnam, elle dit « J'ai été guérie d'arthrite il y a quelques années de cela, mais à cause d'un manque de connaissances, j'avais perdu ma guérison. Après avoir assisté au cours de Audrey Mac sur la guérison divine, j'ai réalisé et compris ce qui s'était passé. » J'ai pu reprendre ma guérison et la garder. Mon mari a vu un tel changement en moi qu'il a finalement décidé de venir à l'école biblique et il n'est plus le même, il a le feu pour Dieu en lui. Audrey, nous t'avons revu 2 ans après à un séminaire et je suis ravie de te faire savoir que je suis toujours guérie, toujours en bonne santé et mon mari et moi nous aimons et servons le Seigneur ensemble. Oh, j'en ai plein d'autres, mais on va s'arrêter là, n'est-ce pas? Sinon, on en aurait pour la perpète les alouettes. On dit ça dans le sud de la France, je ne sais pas si on dit ça au Québec. Mais ce matin, j'ai un message pour vous, êtes-vous prêts? Parce que vous savez, quand je voyage au travers du monde, ça m'étonne et ça m'épate un petit peu qu'il y a, quand je veux apporter ce message de la guérison, que c'est toujours la volonté de Dieu pour nous d'être guéris. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord, et j'en ai même qui vont se battre contre moi pour me dire non, c'est pas toujours la volonté de Dieu. Je me rappelle, il y avait un petit jeune homme qui était dans un fauteuil roulant parce qu'il avait fait un peu le fou sur une bicyclette et il était tombé d'un ravin. Il s'était cassé le dos et avait atterri dans un fauteuil roulant. Et il était là, on voyait qu'il était blessé, mais j'aurais pensé, c'est une bonne nouvelle, il veut l'entendre, mais ce jeune homme a été devenu furieux. Il était hostile, il était complètement en colère avec moi. Il m'a dit non, c'est pas la vôtre, c'est Dieu qui a autorisé que je sois dans ce fauteuil roulant. C'est Dieu qui veut que je sois parce que comme ça, je peux le glorifier. Comme ça, les gens peuvent voir comment Dieu m'aide et Dieu est bon et sa grâce. Alors j'ai dit, moi c'est intéressant quand même, parce que les gens, même les gens qui vont se battre contre moi, voyez, contre le message de la guérison, que c'est toujours la volonté de Dieu d'aller se guérir, ils vont me dire non, c'est pas toujours la volonté, non, la guérison c'est pas la volonté, ce sont les mêmes personnes qui vont aller au docteur et prendre des médicaments. Alors moi je leur dis, il n'y a pas une contradiction là, il n'y a pas un peu d'hypocrisie, d'un côté vous me dites que la guérison c'est pas la volonté de Dieu, de l'autre côté vous allez chez le docteur pour vous prendre des médicaments et c'est pas contradictif là un petit peu? Et donc ça m'étonne vraiment. Mais alors aujourd'hui, je voudrais adresser quelque chose vraiment pour nous faire voir si on doit se soumettre à la maladie, si on doit accepter la maladie. Pour certains d'entre vous, peut-être que ça a l'air un peu surprenant en disant, ben oui, non, on n'a pas besoin, non, je sais. Mais attendez un petit peu parce que peut-être que vous allez voir quelque chose, un petit élément qui va peut-être vous surprendre. Amen. Alors êtes-vous prêts ce matin? Parce que voyez, j'ai les gens très souvent qui me disent que, voyez, des gens, et là ça vient d'où? Ce sont très souvent des gens qui ont cru au message de la guérison ou alors qui ont prié pour eux ou pour quelqu'un d'autre et qui n'ont pas vu de résultat, qui n'ont pas vu la guérison et alors qui viennent à la conclusion que oui, Dieu est souverain, après tout. Il fait ce qu'il veut. Et alors que si on a prié et qu'on n'a pas été guéri, c'est que sûrement ça ne doit pas être la volonté de Dieu. Alors on doit ce matin mettre un petit peu le point sur les i, si vous me permettez. Oui, Dieu est souverain. Si on utilise la bonne définition de la souveraineté, qu'est-ce que c'est que la souveraineté de Dieu? Oui, Dieu est tout puissant. Dieu a toute puissance. Il est au-dessus de tout. Vous êtes d'accord? Mais voyez, Dieu est souverain, mais Dieu a mis sa souveraineté dans sa parole. C'est sa parole qui est souveraine. Et voyez, il n'y a pas de contradiction. Pourquoi? Parce que Jean 1:1, qu'est-ce que ça nous dit? Au commencement, la parole était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Dieu est la parole et Dieu est souverain dans sa parole. Et la parole nous-mêmes nous dit, la parole nous dit même dans Psaume 138, verset 2, que Dieu a exalté, dans la version Darby, Dieu a exalté son nom, sa parole au-dessus de son nom. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Dieu a exalté, a mis sa parole au-dessus de toute autre chose, même de sa réputation. Vous voyez, par exemple, voilà une petite illustration. Vous avez déjà donné votre parole. Je dis, je te donne ma parole. Je viens là à 7 heures. Vous voyez, là, vous vous êtes limité par votre parole. Et parce que, comme, vous voyez, vous n'allez pas briser votre parole. Et de la même manière, Dieu est souverain, mais il a mis sa souveraineté dans sa parole. C'est sa parole qui est souveraine. Et Dieu ne va pas briser sa parole. Il a dit dans la Bible, dans Jérémie, il a dit, je veillerai sur ma parole pour l'accomplir. C'est sa parole qui est souveraine. Ah, Dieu est souverain dans sa parole. Et c'est vrai que des fois, il paraît que Dieu est limité, mais il s'est limité lui-même au travers de sa parole parce qu'il a donné sa parole. Comme nous, des fois, on donne notre parole. Merci pour ce un amen. Alléluia. Voyez, on connaît la volonté de Dieu, non pas au travers de nos expériences, mais au travers de sa parole. Sa volonté est accomplie au travers de sa parole. Alléluia. Écoutez ces versets un petit peu. Psaume 107, verset 20, qu'est-ce que Dieu a dit? J'ai envoyé ma pour les guérir. Voyez, la volonté de Dieu est pour nous d'être guéris. Et comment il va nous guérir? Au travers de sa parole. Et allons ensemble dans Marc chapitre 16. Marc chapitre 16. Est-ce que vous êtes au courant que la Bible, tout au début, a été écrite, non pas en français, a été écrite en hébreu et en grec. Elle a été après traduite dans des langues courantes. Et voyez, très souvent, je lis ma Bible en anglais dans la version qui s'appelle King James, New King James. Et il y a quelque chose qui est de bien dans cette version, c'est que quand il y a des paroles qui ont été rajoutées, qui ne sont pas dans les textes originaux, mais qui ont été rajoutées, dans ma Bible, c'est en italique. On le voit en italique. Vous voyez ce que c'est l'italique? Ça veut dire, c'était pas dans le texte originel, mais ça a été rajouté. Et là, dans Marc 16, c'est intéressant. Dans Marc 16, verset 20, on sait que Jésus est reparti vers le Père, mais avant de repartir, il a parlé aux disciples, il les a bénis, il a transféré la bénédiction d'Abraham, il les a appelés, leur a donné le grand mandat en disant, ces signes vont poursuivre ceux qui croient en mon nom, ils imposeront les mains sur les malades, ils prieront en nouvelle langue, ils chasseront les démons. Vous connaissez ce verset, n'est-ce pas? Et après, dans Marc 16, verset 20, il dit que eux, étant partis, prêchèrent partout, le Seigneur coopérant avec eux. Et vous savez que la parole « eux », c'est en italique. Alors si on se permet d'enlever cette parole « eux » et de le lire comme c'est dans le texte originel, on va découvrir quelque chose. Et eux étant partis, prêchèrent partout, le Seigneur coopérant avec et confirmant la parole par les signes qui accompagnaient. Voyez, Dieu ne travaille pas avec les personnes, il travaille avec la parole. Voyez, c'est pour ça que vous avez des ministres de la parole qui peuvent prêcher ou enseigner et il n'y a pas rien qui se passe. Et vous en avez d'autres qui vont prêcher et il y a des signes qui suivent. Pourquoi ? Parce que la différence, c'est qu'il y en a une qui prêche peut-être leurs opinions, leurs fausses doctrines, leurs choses qui sont un peu tordues. Et il y en a d'autres qui vont prêcher la parole. Et là, dit, ouais, je peux confirmer, je peux travailler avec la parole. Oh, alléluia! C'est là, Dieu nous a envoyé sa parole. Alléluia. Dieu ne va pas briser sa parole. Matthieu 24, 35 dit, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Voyez, on croit que la guérison est la volonté de Dieu, qu'on prie pour la guérison et qu'on ne voit pas de résultat, on ne doit pas prendre la position en disant, ben moi j'ai fait tout bien, moi j'ai cru, moi j'ai tous mes petits, comme on dit en anglais, mes petits canards en ligne de rang, là, j'ai tout bien. Non, c'est Dieu. Vous voyez, on a tendance à vouloir mettre la responsabilité de Dieu en disant que si je ne suis pas guéri, c'est plus facile de dire que peut-être ce n'était pas Dieu qui voulait que je sois guéri. C'est plus facile. On est dans une génération, une culture où on a tendance à vouloir mettre la responsabilité sur quelqu'un d'autre. Ouais, si je suis un meurtrier, si je suis toujours de mauvaise humeur, si je suis toujours que je marche dans la chair, oh ben c'est pas ma faute. C'est parce que quand j'étais petit, j'ai pas eu un gâteau d'anniversaire. Non, apprends à marcher dans l'esprit, dans la parole. Amen. Voyez ce que je suis en train de dire. Et donc, on doit prendre une position où on se dit, c'est ce que j'appelle une position d'humilité, en disant que oui. Je sais que la guérison est la volonté de Dieu et que si quelque part je n'y suis pas arrivée, que je ne vois pas cette manifestation dans ma vie, c'est peut-être il y a quelque chose là en moi que je n'ai pas vu, que je n'ai pas saisi, que je n'ai pas compris. Quelque chose dans la parole que je n'ai pas saisi complètement. Voyez dans Matthieu chapitre 13, et voyez ça c'est un signe d'humilité. Et la Bible dit que Dieu donne de la grâce aux humbles, mais il va résister les orgueilleux. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais pour moi, c'est une bonne nouvelle. Je sais pas pour vous, mais pour moi, c'est une super bonne nouvelle. Ça veut dire, oui, moi, je peux pas changer Dieu, mais je peux me changer quelque part. Vous voyez, Dieu, il est inchangeable. Le même hier. Et si ça vient de Dieu, alors, on a un problème. Vous voyez ce que je veux dire? Mais si c'est quelque part, quelque chose ici, de ce côté-là, que je peux ajuster, des fois, c'est juste un petit ajustement. C'est pas trop. Vous voyez, quand ils ont envoyé une fusée, la NASA, quand ils ont envoyé une fusée sur la Lune ou sur Mars, ils ont dû faire des corrections de trajectoire toutes les 15 minutes. Et la Lune, elle a fusée, elle est atterrie, peut-être des centaines et des centaines et des milliers de kilomètres du point où ça devait arriver. Dans notre chemin en Christ, on doit continuellement faire des petites corrections de trajectoire. C'est pas, vous voyez, ça fait partie de notre chemin. Et alors, dans Matthieu chapitre 13, ça nous dit que j'ai écouté un petit peu. Matthieu chapitre 13, versets 14 et 15. Tout le monde va bien ce matin? Alléluia. Jésus a parlé et a dit, par eux s'accomplit la prophétie d'Ésaïe qui dit, en entendant vous entendrez, vous ne comprendrez pas. En voyant vous verrez, vous n'apercevrez pas. Car le cœur de ce peuple s'est épaissi. Attendez, je vais la lire dans la Louis II, pardon. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, vous entendrez de vos oreilles, vous ne comprendrez point, vous regarderez de vos yeux, vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils entendent de leurs oreilles, de peur qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Et la parole convertir ici, c'est la parole changer notre manière de penser. Et là, qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, si le peuple était disposé à ouvrir leurs yeux, ouvrir leurs oreilles, afin qu'ils puissent comprendre, qu'ils puissent changer leur manière de penser, je pourrais les guérir. Amen. Et regardez dans le verset 19, un petit peu plus loin, la Bible dit que lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, l'ennemi vient immédiatement pour la voler. Voyez, très souvent, les gens ne sont pas guéris, non pas parce que c'est Dieu dans les cieux, assis sur le trône, qui tire les petites ficelles et qui dit, ah ben oui, aujourd'hui, je vais te guérir, aujourd'hui, je vais te guérir, aujourd'hui, à toi, non, à toi, oui. Dieu qui manipule, non, vous voyez, c'est pas Dieu dans les cieux qui choisit qui et quand. Jésus a envoyé sa parole pour nous guérir. Et ce qu'on doit faire, c'est de se mettre dans la position, une position d'humilité en disant, toi Saint-Esprit, tu m'aides, donne-moi de la révélation, aide-moi à comprendre ta parole, aide-moi à recevoir ta parole, aide-moi à ouvrir mes yeux, ouvrir mes oreilles afin que je puisse comprendre, que je puisse changer ma manière de penser, que tu puisses me guérir. Alléluia. Parce que vous savez la vérité, c'est que quand on comprend la maladie, voyez, que Dieu ne veut pas que l'on soit malade, c'est pas sa volonté. Et dès que l'on comprend d'où ça vient la maladie, alors, voyez, ça va être beaucoup plus facile de se dire, non, j'ai pas besoin d'accepter cette maladie. Parce que je sais pas si vous êtes rendu compte dans ce monde, on est constamment inoculé avec l'incrédulité, la maladie, la mort constamment. On est constamment injecté partout où on regarde, tout ce qu'on écoute, c'est rempli de mort, rempli de maladie, rempli d'incrédulité. Et alors, qu'est-ce que ça fait? Ça nous fait en sorte qu'on accepte la maladie. Et alors, on doit se demander, et aujourd'hui, je veux répondre à cette question en disant, doit-on recevoir ou accepter la maladie comme étant une chose naturelle? Vous voyez, il y a quelques jours, j'ai aidé la petite Eden à faire ses devoirs, elle faisait sa petite dictée, et alors que j'avais son petit livre, et le truc, c'était les choses naturelles ou les... Le titre, c'était « Les éléments naturels » ou « Les choses naturelles ». Et je regarde dans la liste, il fallait qu'elle apprenne ces mots. Toute la liste était « Docteur », « Hôpitaux », « Maladie ». C'était tout sur la maladie, tout sur les hôpitaux, tout sur la douleur. J'ai dit, voyez un petit peu, c'est intéressant. Que même dès qu'ils sont tout petits, le monde leur injecte la maladie comme étant quelque chose de naturel. Vous l'avez entendu parler, messieurs, mesdames, ils vont vous dire, oh ben, c'est le moment de l'année, tout le monde est malade, c'est le moment, tout le monde est malade, oh ben, il y a de l'âge, vous commencez, après, vous savez, après 50 ans, on descend la pente, hein. Oh, et puis, oh, vous avez entendu le docteur qui a dit, et quand ils vous font remplir le dossier, est-ce que votre grand-père a eu le cancer? Est-ce que votre père a eu le cancer? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre famille qui a eu le cancer? Parce qu'automatiquement, ils vont vous dire, vous allez avoir le cancer. Oui, c'est vrai. On nous a habitués, on nous a désensibilisés, on nous a fait croire que la maladie est normale, fait partie de ce monde, qu'on doit l'accepter, qu'on doit s'y soumettre. Mais dès que l'on regarde et qu'on regarde et qu'on étudie, qu'on voit d'où vient la maladie, là déjà, ça va répondre à certaines questions. D'où vient la maladie? La Bible nous dit dans Romains 5, 12 que quand Adam a péché, au travers de la désobéissance d'un seul homme, la mort est rentrée dans le monde. Et au travers de la mort, au travers du péché, la mort est rentrée. Et bien sûr, on sait que c'était la mort spirituelle. Et c'est cette mort spirituelle qui a engendré ou qui a produit la maladie, la pauvreté, toutes les œuvres du diable. Amen. Et finalement, la mort physique. Et alors, c'est intéressant, parce que quand on voit la maladie est venue quand l'homme a péché, on pourrait dire en fin de compte que au travers du péché, la mort spirituelle est rentrée. La mort spirituelle a amené la maladie qui finit par la mort physique si vous la traitez pas. Et donc, en un seul mot, on pourrait conclure d'une manière logique, sans trop essayer de stretcher ou de tirer la vérité, on pourrait dire que la maladie est venue quand le péché est venu. Êtes-vous d'accord? Et alors la question qu'on se pose, c'est comment est-ce que Dieu voit le péché? Est-ce que Dieu accepte le péché, aime le péché, se sent à l'aise avec le péché, veut que l'on pêche? Merci messieurs et mesdames. Non, Dieu est le péché. Le péché est l'ennemi de Dieu, Dieu est le péché. Et voyez, pour Dieu, si la maladie est rentrée dans la terre quand le péché est rentré dans la terre, vous savez qu'est-ce que ça veut dire que Dieu voit les deux de la même manière? Quand Dieu voit le péché, quand Dieu voit la maladie, il le regarde de la même manière qu'il regarde le péché. Et pourquoi nous, on doit apprendre à faire la même chose? Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous et moi, messieurs et mesdames, on sait qu'on ne doit jamais accepter le péché. Au contraire, on doit résister au péché. On doit se battre contre le péché. Êtes-vous d'accord? De toute notre force, s'il y a l'adultère qui frappe à la porte, s'il y a le mensonge ou quelque chose qui vient, qui frappe à votre porte, vous savez, en tant que fils de Dieu chrétien, que vous devez résister à la tentation, afin que cette tentation ne donne pas naissance au péché. Vous résistez d'une manière active, n'est-ce pas? Et pourquoi, quand la maladie frappe à la porte, qu'il y a les mal de stomac, ou les mal de tête, ou quelconque symptôme qui frappe à votre porte, la plupart d'entre nous, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre la porte et on dit, bon, ben, c'est comme ça, ça fait partie de la vie, c'est naturel. Je deviens un petit peu plus âgé, ou mon grand-père, mon père et mon frère l'avaient. Vous voyez, la liste peut être longue. On nous a enseigné qu'on résiste au péché, mais que la maladie, ça fait partie de la vie. On doit s'y soumettre, on doit l'accepter. Mais non, vous voyez, Dieu est le péché. On doit, comme Dieu, apprendre à haïr la maladie. Et on doit non seulement haïr la maladie, mais on doit résister à la maladie, comme on nous a enseigné de résister au péché, parce que pour Dieu, c'est un et le même. Vous voyez, la Bible appelle la maladie une malédiction. Moi, je voyage et j'entends des gens parlant des fois me dire « Oh mais non, Audrey, tu sais pas, la maladie, ça m'a enseigné certaines choses. Au travers de la maladie, Dieu a pu me faire mûrir, m'approfondir, m'enseigner. Oh, au travers de la maladie, je me suis rapprochée vers Dieu. » En d'autres mots, vous savez qu'est-ce qu'ils disent? Que cette maladie était une bénédiction. Ils vont pas peut-être vous le dire du direct, mais c'est le compte tenu. Mais voyez, moi j'ai dit non, je vais appeler la maladie comme Dieu l'appelle. Et dans ma Bible, dans Deutéronome chapitre 28, la Bible nous donne toute une liste détaillée de Deutéronome 28, du verset 15 au verset 68. Et il y a une liste détaillée de toutes les malédictions. Et vous savez qu'est-ce que une grande partie des malédictions est la maladie. En d'autres mots, Dieu appelle la maladie une malédiction. Jésus lui appelait la maladie. Il appelait ça l'œuvre du diable. Vous vous rappelez dans la synagogue, quand il y avait une petite vieille femme qui a été courbée pendant 18 ans. Elle n'a pas pu voir le ciel, elle pouvait simplement voir marcher comme ça. Et dans la synagogue, tout d'un coup, Jésus l'a appelée, l'a guérie. Oh ben ça a mis tous les hommes religieux, ça les a mis en colère. Vous voyez la guérison, le message de la guérison vont mettre les gens religieux légalistes en colère. Amen. Et donc, tous les pharisiens se sont mis en colère en disant « Comment oses-tu guérir le jour du sabbat? Pourquoi ne reviens-tu pas il y a six autres jours pour guérir ?» Ils l'ont accusé de violer le sabbat. Et qu'est-ce que Jésus a répondu? Cette femme, étant une fille d'Abraham, que Satan tenait liée ses 18 ans, ne devrait-elle pas être libre et guérie aujourd'hui? Jésus déclarait lui-même que la maladie était l'œuvre du diable. Amen. Alors c'est ça qu'on doit voir, que quand Dieu regarde la maladie, il le voit exactement comme le péché. Pour lui, c'est un et le même. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que si vous êtes malade, Dieu vous hait. Non, Dieu aime le pécheur, mais il est le péché. Dieu aime celui qui est malade, mais il est la maladie. Amen. Et on doit avoir la même attitude envers la maladie. Amen. Voyez pourquoi? Parce que la vérité, c'est que comment est-ce que le diable va vous faire pécher? Comment est-ce que le diable va vous faire accepter le péché? Ou vous faire accepter, il va le faire au travers d'une tentation, n'est-ce pas? Pour vous faire pécher, le diable va vous amener une tentation. Et cette tentation, est-ce que cette tentation est péché? Avez-vous péché quand vous êtes tenté? Non. Quand est-ce que cette tentation donne naissance au péché? Quand vous cédez, merci monsieur, quand vous vous soumettez à la tentation, que vous cédez à la tentation, que vous acceptez cette tentation, qu'est-ce que ça fait? Oh, pardon, merci. Qu'est-ce que ça fait, voyez? Vous êtes tenté, mais c'est quand vous cédez à la tentation, que vous l'acceptez, vous vous y soumettez, que ça donne naissance au péché. Est-ce que vous savez que le diable va travailler exactement de la même manière pour vous faire accepter la maladie? Ce que la tentation est au péché, les symptômes sont à la maladie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le diable ne peut pas vous rendre malade, il doit obtenir votre permission. De la même manière qu'il ne peut pas vous forcer à pécher. Voyez le concept? Le diable me l'a fait faire. Il y a un homme qui atterrit dans un lit avec une femme qui n'est pas sa femme. Ah ben moi, je sais pas comment ça s'est passé. Le diable me l'a fait faire. Non. Non, le diable ne peut pas vous forcer à faire quoi que ce soit. Il doit obtenir votre permission. Et pour obtenir votre permission afin de pécher, il le fait au travers d'une tentation. Et pour vous faire accepter la maladie, il le fait au travers des symptômes. Vous voyez, ces symptômes ne sont pas la maladie, mais ces symptômes deviennent la maladie quand vous y cédez, quand vous l'acceptez, quand vous vous y soumettez, ça donne naissance à la maladie. Et ce qui veut dire qu'on doit apprendre à résister à ces symptômes, tout comme on nous a enseigné à résister à la tentation. Alléluia! C'est ce que Jacques 4, 7 nous a dit. Et vous savez, c'est beaucoup plus facile de chasser l'ennemi quand il est à la porte. Voyez, si quelqu'un essaie de rentrer chez vous pour vous voler, pour vous détruire, dès qu'il frappe à la porte et qu'il vous ouvre un petit peu, c'est beaucoup plus facile de le chasser, de résister, de le mettre dehors quand il a juste un petit bout du nez ou son pied qui est entre la porte. Mais quand cette personne est rentrée à la maison, qu'elle s'est mise allongée sur le canapé, les pieds sur la table, ça devient un peu plus difficile. Voyez, c'est pour ça que je veux encourager les gens. Aux premiers symptômes que vous avez, dès que vous avez les premiers symptômes, relevez-vous, résistez ces symptômes, ne les acceptez pas comme étant naturels, comme une chose que vous devez accepter, quelque chose qui fait partie de la vie. Non, 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 n'acceptez jamais ces symptômes, mais résistez à ces symptômes d'une manière. Relevez-vous, on dit non, 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 diable, non. Maladie, non, pas, tu ne vas pas rentrer dans cette maison. Là, tu vois, c'est le temple du Saint-Esprit. Tu n'es pas la bienvenue. Alléluia. Vous voyez, le diable ne peut pas vous forcer, non seulement ne peut pas vous forcer à pécher, il ne peut pas vous forcer à être malade. Il doit obtenir votre permission. Vous dites, parce que vous voyez, des fois, j'ai des gens qui me disent, mais si Dieu est amour, pourquoi est-ce qu'il permet toute cette maladie, toutes ces choses de se passer? Vous voyez, quelle est ma réponse? Oui, Dieu est amour, mais ce n'est pas Dieu qui le permet. C'est nous qui le permettons. Pourquoi? Parce que avant de partir, qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, je vous donne toute autorité sur toute la puissance du diable. Et dans Matthieu 18:18, la parole nous dit tout ce que vous lirez sur la terre sera délié dans les cieux. Tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. Je vais vous donner une interprétation ou un petit peu plus français courant. Tout ce que vous permettez ici sur la terre, devra être permis dans le monde spirituel. Tout ce que vous ne permettez pas et que vous n'autorisez pas ici sur la terre, Dieu ne va pas le permettre, ne va pas l'autoriser dans le monde spirituel. Et voyez, Dieu a mis en place certaines lois, il a donné son autorité. C'est ce que la Bible nous dit dans Psaume 115, verset 16. Il dit, les cieux, oui, les cieux appartiennent à l'Éternel, mais la terre, il l'a donnée au Fils des hommes. Psaume 8, versets 4 à 6, le roi David dit, qui est l'homme que tu sois, que tu penses à lui constamment? Tu l'as fait juste un petit peu inférieur à Elohim et tu as tout mis sous ses pieds. Tu lui as donné autorité sur toutes les œuvres de la terre. En d'autres mots, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu, oui, voyez, les cieux, Dieu a toute autorité dans les cieux, mais il a délégué son autorité sur la terre à l'homme, vous et moi. Et s'il y a certaines choses qui se passent, c'est pas que Dieu qui l'a autorisé, c'est nous au départ là qui l'avons permis et Dieu a dû le permettre dans le monde spirituel. Parce que Dieu ne va pas aller contre sa parole, contre l'autorité qu'il nous a donnée. Est-ce que vous voyez? Mais pour moi, ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que je suis le capitaine de mon navire, je suis derrière le gouvernail. Je suis pas sans puissance devant devant le diable. Je suis pas sans puissance et sans force devant l'ennemi. Amen. Merci pour ces deux amen. Amen. Il y a certains parmi vous, vous me regardez d'une manière éteinte. Alléluia. Mais c'est la vérité. Dieu nous a donné toute autorité. Et voyez, afin de pouvoir faire son œuvre ici sur la terre, le diable ne peut la faire qu'en obtenant notre permission. Et c'est vrai que le diable est subtil. Voyez, on va pas lui donner notre permission en disant « Ok, je te donne la permission, vas-y, fais ce que tu veux. » Non, non, non. Il va l'obtenir d'une manière très subtile, d'une manière où on va des fois en être conscient, des fois on ne sera même pas conscient. Amen. Il le fera d'une manière où on s'en rendra même pas compte. Et comment est-ce que le diable obtient notre permission? Et nous sommes en train de parler de la maladie. La première manière avec laquelle il peut obtenir notre permission, c'est au travers des paroles que l'on parle. Marc 11, 23, Jésus a dit, vous aurez ce que vous dites. Amen, vous aurez ce que vous dites. Exemple, moi j'entends des fois des gens qui disent, oh ben tu sais là, c'est le moment de l'année, il y a un petit virus qui traîne, moi tu peux être sûr, je vais me l'attraper. Qu'est-ce qu'ils vont? En fin de compte, nous sommes le prophète de notre propre vie. Sans nous en rendre compte, nous prophétisons des choses sur notre vie et on ne s'en rend pas compte. Pourquoi? Parce que le diable nous a persuadés et convaincus que nos paroles, ce n'est pas trop important. Nos paroles sont à la légère, on parle, ça s'évapore. Non, non, nos paroles, là-bas, la Bible dit, Proverbe 18, 21, que la mort et la vie sont dans le pouvoir de la langue. Nous sommes les prophètes de notre propre vie et très souvent par les paroles que nous prononçons, sans même s'en rendre compte, nous donnons permission dans ce monde physique qui donne permission dans le monde spirituel. Parce que bien sûr, vous êtes au courant qu'il y a deux différents mondes, un monde que l'on voit et un monde que l'on ne voit pas, là où Dieu vit. Amen. Les paroles que l'on dit va ouvrir la porte, donner permission à l'ennemi de venir, de faire ce qu'il veut faire. C'est pour ça qu'on doit faire très attention à ce que l'on dit. Moi, des fois, mon mari et moi, on essaie de s'aider un petit peu, parce que si je l'entends dire des choses, et je lui dis, tu veux que je sois d'accord avec toi, là, maintenant? Il me dit, j'ai dit quelque chose, c'était pas bien ce que j'ai dit. Alors, je dis, ben non. Il me fait la même chose avec moi. Il me dit, Audrey, tu veux que ça se passe? Je lui dis, oh non, merci, non. Non, je veux pas, j'annule. Les paroles que l'on déclare donnent permission, accès dans le monde spirituel. Aussi les paroles que quelqu'un parle au-dessus de vous ou déclare à votre sujet. Vous avez entendu, je suppose, ce verset dans Ésaïe 54, verset 17, qui dit que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute parole ou toute arme forgée contre toi, je vais la lire parce que je ne veux pas la transformer. Aucune arme forgée contre toi ne réussira pas. Et toute langue qui s'élèvera contre toi en jugement, tu la condamneras. Est-ce que je peux vous montrer que comment est-ce qu'une arme très souvent est forgée contre vous? Aux médias, aux moyens de paroles qui sont prononcées contre vous. Nous avons tous eu l'expérience de quelqu'un qui a prononcé des paroles, qui nous a dit « tu vaudras rien, tu es stupide ». Et ces paroles ont été devenues une arme forgée contre nous qui nous a handicapés très souvent dans la vie. Mais vous savez, ça se fait tout le temps au travers des médias où vous allez chez le docteur. Qu'est-ce qu'il fait constamment? Les gens vont prononcer des paroles contre vous ou sur vous ou à vous. Mais vous avez remarqué là ce que la Bible dit? Il dit, ces paroles qui sont prononcées en jugement contre toi, si vous ne les condamnez pas, ça va devenir une arme forgée contre toi. En d'autres mots, ces paroles qui sont parlées contre vous ou sur vous, vous devez immédiatement les annuler. Parce que si vous ne les annulez pas, ça devient une arme forgée contre vous. Moi, je me rappelle, j'étais à la maison et j'étais en train de faire je ne sais pas quoi. Il y a le téléphone qui sonne et il y a un monsieur qui me dit « Madame Mac, quel âge avez-vous ? » Alors je dis « Bon, mais j'ai 50 ans. » Il me dit « Savez-vous ?» que les statistiques nous montrent qu'au travers des mondes, les femmes qui dépassent l'âge de 50 ans vont commencer à souffrir de l'ostéopathie et souffrir de ceci et souffrir de cela. Savez-vous que tant de... J'ai dit, monsieur, merci. Je ne sais pas ce que vous essayez de me vendre, mais non, ça, tout de suite, qu'est-ce que j'ai fait? Ces paroles étaient des paroles de jugement contre moi et contre ma santé et... immédiatement, j'ai dû les confronter, j'ai dû les annuler. J'ai dit, monsieur, je ne sais pas ce que vous essayez de me vendre, mais non. Je vous dis tout de suite, ça ne va pas venir dans ma maison, ça ne va pas m'arriver, ça ne va pas être dans ma... Il me dit, oh, qu'est-ce qui vous rend si sûr? Savez-vous qu'il y a des milliers, des millions de femmes qui souffrent de... J'ai dit, non, ça ne va pas arriver ici, je vous le dis tout de suite. Merci, monsieur. Et il est en train de pousser un petit peu, il me dit, pourquoi vous pensez que ça ne va pas vous arriver quand c'est arrivé à des millions de personnes? Alors, je dis, ah, vous voulez savoir? Alors, je vais vous dire, parce que la même puissance, monsieur, qui a ressuscité Jésus-Christ des morts, elle demeure en moi. Alors, j'ai dit, non. Je vous dis tout de suite, non, ce diagnostic que vous avez déclaré, ça ne m'arrivera pas parce que je ne suis pas dans mon corps et la puissance de Dieu, la puissance qui a ressuscité Jésus. Et Dieu m'a guéri du cancer, Dieu m'a guéri de l'appendicite, Dieu m'a guéri de tout un tas de trucs et Dieu me garde en bonne santé. Alors il est devenu un peu agressif, alors à ce moment-là, j'ai dit, écoutez, merci monsieur, je ne veux pas perdre votre temps, merci, au revoir. Voyez ? Mais le problème, c'est qu'on est devenu dans une culture qui est si politiquement correcte, où on ne veut offenser personne. Alors on garde la bouche fermée. Moi, je veux offenser personne, je veux rien dire. Non, il faut rien dire. Rock the boat. Il faut pas, voyez, il faut pas offenser les gens. Maintenant, on est dans cette culture où on garde la bouche fermée. Le diable nous a convaincus qu'il faut rien dire de peur que quelqu'un soit offensé. Moi, je dis non, la Bible nous dit que si on n'ouvre pas notre bouche et qu'on n'annule pas les paroles qui sont déclarées. Voyez, même des fois, je suis à la maison, il y a la télé qui parle. Il y a par exemple, je suis en train de regarder une bonne émission et tout d'un coup, il y a une publicité. Et ils ont l'art de vous amener de l'incrédulité et des cochonneries au travers des publicités. Et ils commencent à essayer de vous vendre tout un tas de trucs qui sont pleins d'incrédulité. Et alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'entends, dis oui, après l'âge de 40 ans, vous allez développer du diabète, vous allez avoir ceci, vous allez avoir cela. Et là, toute seule dans ma chambre ou dans ma salle, je dis, non, pas ici, ça va pas se passer ici, non merci. Vous dites, mais il y a personne qui vous parle. Oui, il y a la télé qui me parle. Vous voyez, il y a un monsieur, il est l'ami d'une de mes meilleures amies. Et Dieu lui avait parlé que sa femme, il avait 3 enfants, que sa femme allait être enceinte d'un 4e enfant. Alors ils se sont réjouis. Et bien, peut-être 2 mois plus tard, elle était enceinte. Ils sont allés chez le docteur pour écouter, voyez, pour savoir un petit peu, faire les tests et tout ça. Et le docteur lui a dit, est venu avec un diagnostic super mauvais. Il lui a dit, madame, écoutez, je suis désolée de vous le annoncer. Les parents étaient là. Il dit, j'ai observé, j'ai fait des centaines et des milliers de femmes. J'ai vu des milliers de femmes enceintes. Il dit, mais je n'ai jamais vu un bébé dans le ventre comme vous. Il a 99,9% de symptômes qu'il va être, comme on dit en français, mongolien handicapé, Down syndrome. Trisomique. Maintenant, voyez un petit peu, on veut plus dire mongolien, on essaie de le dire de manière un petit peu plus subtile. Mais vous comprenez. Et alors, tout d'un coup, quand le docteur a prononcé, il a dit, moi j'en ai vu plein des enfants, je peux vous dire, cet enfant va naître trisomique. handicapé. Il a dit, j'ai jamais vu de cas comme ça. Immédiatement, là, dans le bureau du docteur, le papa s'est relevé. Il a dit, monsieur, je vous remercie parce que vous faites votre boulot, mais je vous déclare tout de suite, mon enfant va naître naturel et en parfaite santé. Et le docteur, il dit, écoutez, monsieur, je comprends. Il dit, mais non, je vous dis, j'ai vu. Vous voyez, le docteur a insisté. Le monsieur dit, oui, je comprends, mais mon Dieu est un grand Dieu. Mon Dieu m'a donné cet enfant et cet enfant va être en bonne santé. Et vous savez que, au cours de la grossesse, le docteur continuellement voulait lui dire « cet enfant va naître, cet enfant va naître ». Et constamment, les parents ont dû dire « non, non, cet enfant va naître en bonne santé, cet enfant va naître en bonne santé ». Et vous savez que le jour de la naissance, cet enfant est né non seulement en bonne santé, mais il est né tellement parfait que toutes les infirmières étaient autour à le regarder ébahies en disant « on n'a jamais vu d'enfant si parfait ». D'habitude, ils ont la jaunisse, ils ont ceci, ils ont cela. Votre enfant, il est beau, il est parfait. Qu'est-ce qui se serait passé si le papa, quand cette parole a été prononcée, déclarée, Oshakatalamande profashite konamande, il y a quelqu'un ici, kundelebra fekandolo voshte, vous avez besoin d'entendre ce message, parce qu'il va y avoir une épreuve, il va y avoir un moment où vous allez entendre un diagnostic du docteur, et là vous devrez savoir de vous relever dans votre autorité, et de déclarer avec l'onction de la parole que Dieu guérit, que ce diagnostic ne va pas se réaliser, que vous allez vous relever en bas de santé. Alors écoutez, déclarez et acceptez cette vérité. Cette parole aujourd'hui, c'est pour plein de personnes, mais il y a quelqu'un en particulier. Alléluia. Vous voyez, si ce papa ne s'était pas relevé en se disant, ben moi je veux pas offenser le docteur, il vaut mieux que je reste silencieux, que je dise rien, je suis persuadée qu'il serait né avec un enfant qui aurait été handicapé toute sa vie. Mais ce monsieur, vous voyez, il a entendu ce message, il a entendu, et à ce moment-là, il a dit, non, je n'accepte pas, je ne me soumets pas à ce diagnostic, je ne l'accepte pas, au nom de Jésus. Et il s'est relevé. Amen. Alléluia. Vous voyez, le diable peut obtenir permission par les paroles que l'on déclare, les paroles qui nous sont déclarées et aussi au travers de notre passivité. Au travers, vous vous rappelez, comment est-ce que dans le jardin, dans Genèse 3:6, quand le diable est venu pour tenter, qu'il est venu pour tenter Ève, comment est-ce que le diable a tenté Ève et que le péché est rentré, qu'ils sont tombés, qu'ils ont cédé à la tentation. Pourquoi est-ce que le diable a obtenu l'autorité de Adam, que Adam a perdu son autorité? Pourquoi? Parce que Adam était passif dans son autorité. La Bible dit dans Genèse 3:6 que quand le diable est venu pour tenter Ève, où était Adam? Il était juste là à côté. Il était à côté, il a entendu, il a vu, il n'a rien dit, il n'a rien fait. Et parce qu'il est resté passif, par passivité, il a donné permission à l'ennemi. Vous voyez, si vous essayez, vous dites, moi je reste dans le côté neutre. Il n'y a pas de côté neutre dans le royaume de Dieu. Vous allez ou alors à l'avant, ou alors vous reculez. Et quelqu'un qui reste passif, c'est quelqu'un qui va, sans s'en rendre compte, donner permission à l'ennemi pour venir et pour détruire. Amen. Alléluia. Ça veut dire qu'on doit apprendre à se lever à l'intérieur. On doit apprendre à se lever à l'intérieur, à ne pas accepter la maladie. Je sais, pour certaines personnes, ça rend mal à l'aise en me disant, qu'est-ce que tu me dis, que je dois faire quelque chose, que je n'ai pas assez fait. Moi, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a une porte ouverte, il y a de la lumière au bout du tunnel. On doit apprendre à se mettre en colère contre la maladie comme on se met en colère contre le péché. On doit avoir la même attitude. Voyez, vous avez déjà lu le verset dans Éphésiens 4, versets 26 et 27. Dans Éphésiens 4, versets 26 et 27, il dit, et je vais la lire dans la version Darby, parce que c'est très beaucoup plus proche des textes originaux. La Bible dit dans la Darby, Éphésiens 4, versets 26 et 27, il dit, mettez-vous en colère. Mettez-vous en colère. Est-ce que c'est une suggestion? Quand vous dites à quelqu'un, mets-toi en colère, est-ce que c'est bon si tu te mets en colère, ou quand tu te mets en colère, ou si tu veux te mettre en... Non, non. Quand quelqu'un vous dit, fais ceci, ou mets-toi en colère, c'est un commandement. Et là, la Bible nous dit que Paul dit, mets-toi en colère et ne pêche pas, et ne pêche pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne donnez pas occasion au diable. Quand on regarde le contexte là, vous savez de quoi est-ce que ça parle? C'est en train de parler du péché. Et qu'est-ce que Paul nous dit là? Qu'on doit apprendre à se mettre en colère contre le péché. Il dit, ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère. Restez en colère contre le diable. Restez en colère contre la maladie. Restez en colère contre le péché. Parce qu'au moment où vous, ce genre de colère contre le péché et contre ce qui vient du diable commence à s'abaisser, que ça commence à s'affaiblir, vous donnez une place au diable. Ne mettez-vous en colère. Commandement. Et ne péchez pas. Vous voyez, quand on reste en colère contre le péché, on ne pêche pas. Quand est-ce qu'on pêche? Quand on commence à accepter, c'est pas grave, hein, tout le monde le fait. Mais quand on a cette irritation, cette colère contre le péché, contre ce que le diable amène, contre la maladie, contre tout ce qui vient du diable, on ne va pas pécher. On ne va pas donner l'occasion et place à l'ennemi de venir et de faire ce qu'il veut faire dans notre vie, dans notre corps. On ne doit pas laisser le soleil se coucher. On nous a dit, voyez, oh ben si tu te mets en colère avec ton mari, sois sûr, il faut que avant d'aller te coucher, faites-vous un petit bisou, faites la paix, tout va bien. C'est pas ce que ça veut dire là. Ça veut pas dire si tu te mets en colère, comme si c'était ok de rester en colère toute la journée. Mais surtout, fais la paix avant de te coucher. Dieu n'a pas dit, ouais, tu peux rester en colère toute la journée et sois sûr de faire la paix avant de te coucher. C'est pas ce qu'il dit. Il dit, mets-toi en colère et ne pêche pas. Ne laisse pas ce genre de colère. Ne laisse pas le soleil se coucher sur ce genre de colère. Ne laisse pas ce genre de colère se diminuer et ne donne pas place au diable. Moi, je me rappelle, j'étais en Suisse et je faisais une réunion pour des hommes d'affaires. C'était une réunion évangélique. Et tout d'un coup, ils m'ont emmené une dame qui était dans un fauteuil roulant. Cette dame, son mari l'avait tellement battue, qu'il lui avait fracturé, il lui avait coupé un nerf dans le dos, elle était paralysée. Et les docteurs lui ont dit, vous allez rester dans ce fauteuil roulant pour le reste de votre vie. Cette femme était non seulement brisée dans son corps, elle était brisée dans son cœur. Quand ils me l'ont amenée, on voyait la tristesse, le désespoir, la peur sur son visage. Et quand ils me l'ont amenée, voyez, quand je prie pour les gens, je n'aime pas faire juste une petite prière, appliquer la formule 1, 2, 3, 4, 5, tout le monde. Pareil, non. C'est important d'écouter le Saint-Esprit. C'est important d'écouter et d'être à l'écoute, de savoir qu'est-ce que le Saint-Esprit veut, comment est-ce qu'il veut aider cette personne. Et là, tout de suite, j'ai commencé à parler à cette femme, le Saint-Esprit m'a parlé, il m'a dit, surtout, ne prie pas sur elle très vite en essayant de la faire sortir de son fauteuil, parce qu'avec elle, ça va devoir être progressif. Et après, il m'a dit, tout d'abord, tu dois lui apprendre à se mettre debout à l'intérieur, à se mettre en colère à l'intérieur avant qu'elle puisse se relever à l'extérieur. Et voyez, j'ai commencé à lui montrer parce qu'elle était dans l'acceptation, elle s'était résignée. C'est ça des fois quand des gens sont malades pendant très longtemps, ils viennent dans cette position où ils acceptent. Ils acceptent, ils se résignent à cette condition et ils apprennent à vivre dans cette condition. Et c'est ça qu'on doit changer, ne pas se relever à l'intérieur. Et donc j'ai parlé à cette jeune femme, pendant 15-20 minutes. Je lui ai parlé, j'ai partagé et je lui ai montré comment elle devait se mettre en colère à l'intérieur, comment elle ne devait pas accepter cette condition, elle devait résister à cette condition comme on résiste au péché, qu'elle ne devait pas s'y soumettre. Et après je lui ai enseigné un petit peu ce que je vous ai enseigné l'année dernière un petit peu, comment recevoir la guérison, comment marcher dans la guérison, comment permettre à la puissance de Dieu de travailler à l'intérieur de son corps. Et alors, j'ai prié pour elle. quelques mois plus tard, 3 mois plus tard, je reçois un email d'elle. Elle me dit, Audrey, et je lui avais montré, j'avais dit, avec vous, ça va être, vous allez devoir vous battre contre cette. Je dis, ça va pas être facile. Ça va pas, vous allez pas simplement vous lever hors du fauteuil roulant et ta-da-da. Je dis, des fois, ça se passe. Mais des fois, on a besoin de pousser, pousser. Ça veut dire, levez-vous un petit peu, bougez les doigts paix. Demain, vous ferez un petit peu mieux, le jour d'après. Mais continuez à pousser, à résister ces symptômes, résister cette condition et cette maladie. Vous voyez ce que je veux dire? Et alors, cette femme, elle m'a envoyé un email 3 mois plus tard. Et elle m'a dit, Audrey, elle me dit, je ne marche pas encore, mais je fais des progrès. Elle me dit, j'ai commencé à me relever dans mon fauteuil roulant. J'ai commencé à bouger les pieds un petit peu. J'ai commencé à faire un petit effort. Alors, c'était une bonne nouvelle. Un an plus tard, c'était vraiment 9 mois plus tard, un an à partir du moment où j'avais prié pour elle, un an plus tard, j'étais maintenant à Annecy, en France. J'étais dans une église à prêcher sur le Saint-Esprit. Et je vois cette dame au premier rang qui m'avait l'air très familière. Je la reconnaissais, mais je ne la reconnaissais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Elle me paraissait familière, mais je ne pouvais pas la situer, savoir où je l'avais rencontrée, qui elle était. Et à la fin du culte, cette dame vient en marchant vers moi. Et elle me dit... Audrey, est-ce que vous me reconnaissez? Je dis oui et non. Elle me dit, je suis la dame pour qui vous avez prié, qui était dans un fauteuil roulant. Elle me dit, merci. Elle me dit, vous savez, quand j'étais assise dans mon fauteuil roulant, j'avais la crainte de que vous me preniez, que vous me forciez à me lever. Elle me dit, j'étais pas prête. Elle me dit, mais merci d'avoir pris du temps à m'enseigner comment me relever à l'intérieur, me mettre en colère à l'intérieur. Elle me dit, j'ai fait ça. Elle me dit, ça m'a pris un petit peu de temps, mais regardez, maintenant je marche. Elle me dit, vous savez ce que je vais faire? La prochaine chose que je vais faire, je vais repasser mon permis de conduire. Et je vais... Elle me dit, vous savez, maintenant j'ai un boulot. Je ne pouvais pas avoir un boulot, mais maintenant j'ai un boulot. Et cette femme était transformée. La vérité, voyez, ce que je veux montrer aujourd'hui, ce n'est pas un message de condamnation disant « si vous n'avez pas votre guérison, alors vous n'avez pas cette foi ». C'est pas ce que je suis en train de dire, non, c'est un message d'espoir en disant que si vous savez que la guérison est la volonté de Dieu premièrement, vous savez que si vous êtes toujours, ce n'est pas parce que Dieu est au paradis les bras croisés en se disant « bon, elle, on va la laisser comme ça » ou « lui, on va le laisser comme ça » ou « elle est née comme ça parce que… » C'est naturel. Non, non, non. C'est que quelque part, il y a quelqu'un quelque part qui a, sans le savoir, c'est à céder, à donner permission à l'ennemi qui est tellement, qui trompe, qui séduit, qui dupe. Il est un artiste à le faire. Et des fois, on s'en rend même pas compte. Mais pour moi, ça, c'est un message d'espoir. Ça veut dire que je peux prendre le contrôle de ma vie. Ça veut dire qu'il y a de l'espoir. Ça veut dire que je peux me tourner vers Dieu en me disant, Seigneur, c'est pas la fin du chemin. Ça peut changer cette condition. Je peux, avec ton aide et la révélation du Saint-Esprit et avec ta parole, je peux en sortir. Moi, j'ai des personnes que je connais. Leur enfant était autiste. C'est ça dit, autiste. Et vous savez que cette personne a entendu ce merveilleux de message, elle a pris une décision, elle a dit, on refuse à partir de ce moment-là. Ça leur a pris du temps, ça s'est pas passé du jour au lendemain. Ça s'est pas passé, c'est ça des fois, ça nous trouble, parce qu'on a l'impression que quand ça vient de Dieu, papapam, ça va se passer. Oui, la guérison nous a été donnée, mais des fois, dans notre vie, dans notre cœur, notre façon de penser, on doit mettre les choses un peu en place, on doit se positionner. Voyez, je vais conclure, c'est ma conclusion numéro 3. Voyez la NASA, quand ils ont envoyé, merci messieurs, quand ils avaient pris un satellite, ils l'avaient envoyé dans l'espace. Et ce satellite qui leur avait coûté des millions de dollars avait le potentiel de générer des milliards. Et ce satellite a été envoyé en orbite. Mais... ce satellite ne communiquait pas, il ne pouvait pas envoyer, il ne pouvait pas recevoir. Et alors la NASA, ils étaient, mais qu'est-ce qu'on va faire? On a pensé des millions de dollars et il n'y a rien qui se passe, on ne transmet pas, on ne reçoit pas. Et alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé une petite fusée pour repositionner ce satellite et le mettre dans l'orbite correcte. Et vous savez ce qui s'est passé? Ça a commencé à transmettre et à recevoir. Juste des fois, c'est ça qui se passe dans notre vie. On a besoin d'une petite fusée pour nous remettre dans l'orbite correcte. afin qu'on puisse recevoir la puissance, transmettre la puissance. Amen. Alléluia. Alors ce matin, alléluia, avec ce message, j'espère que ce message, je sais que ce n'est pas un message où on a envie de courir autour de l'église et de crier alléluia. Ah oui, ah ben on le fait alors. Merci Seigneur. Alléluia. Voyez, c'est le genre de message qui a le potentiel peut-être d'offenser quelqu'un. Mais voyez, si on garde la bonne attitude, on dit non, je ne vais pas être offensé, je vais l'accepter, le recevoir, parce que comme ça, ça me donne la possibilité de voir de la lumière au bout du tunnel. Que ce n'est pas quelque chose que Dieu, ça ne vient pas de Dieu, Dieu est bon, Dieu m'aime, il a tout pourvu. C'est simplement, moi je dois me mettre dans l'orbite correcte, une petite. C'est pour ça qu'il a envoyé différentes fusées, les pasteurs, les évangélistes, les enseignants, les prophètes, les apôtres. On est juste des petites fusées pour on se mettre dans la bonne correcte position. Il y a des fusées qui sont un petit peu plus différentes que d'autres. Amen. Alléluia. Alors ce matin, fermons nos yeux juste une petite seconde si vous me permettez. Il y a des personnes ici, vous n'avez pas seulement votre corps qui a été attaqué, mais votre cœur. Vous avez un cœur brisé. La Bible dit que l'espoir qui est différé rend le cœur malade. Alors si votre cœur a été malade parce que votre guérison a été différée, je voudrais que vous mettiez votre main sur votre cœur. Au nom de Jésus, je parle et je déclare que le baume de Gilead, l'amour de Dieu qui transcende et qui dépasse toute connaissance, maintenant même, va oticombre, ikulashte kanomo prefiste, kanule, iprochte, ikueyando loshite. Seigneur, je te remercie pour l'espoir. Espoir, espoir, au nom de Jésus, espoir, au nom de Jésus, vie, lumière, amour, au nom de Jésus, soutenement t'élevé. Et Saint-Esprit, je te remercie que à partir de ce moment même, au nom de Jésus, il va y avoir de la révélation qui va exploser, qu'ils vont entendre, que ce soit d'un message à la télé ou dans leur Bible ou au travers d'une CD ou d'un message, ils vont entendre des révélations, des vérités qui vont leur permettre de connecter tous les points, qui vont leur permettre de se relever, de marcher et d'accepter leur guérison. Seigneur, je te remercie au nom de Jésus. Cet esprit de révélation, cet esprit de sagesse et de révélation. Oh, lite profenando. Et maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, il y a quelqu'un là, votre prostate, au nom de Jésus, votre prostate, il y a quelque chose avec votre prostate. Mettez votre main sur votre prostate et au nom de Jésus, je déclare que cette prostate est guérie au nom de Jésus. Guérie, la puissance de Dieu maintenant qui va dans ce corps pour réparer, pour recréer, pour fortifier au nom de Jésus. Onita profandele bando kicha. Iki provenema andele cabrochte. Il y a quelqu'un ici, vous avez une incontinence. Ça veut dire que votre vessie est très 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 faible. On dit qu'à profe, il est mando colamande. Au nom de Jésus, je déclare, vessie, sois guérie, sois fortifiée. Muscle de la vessie, soyez fortifiés par la puissance de Dieu, par cette puissance sous le son de ma voix. Je déclare que ces vessies, les muscles de ce vessie sont fortifiés au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a des palpitations de cœur irréguliers. Des palpitations de cœur irréguliers. Mettez votre main sur votre cœur au nom de Jésus. Je commande à ce cœur de battre d'une manière régulière. Je commande au sang de pomper et d'aller d'une manière régulière et correcte au travers des artères, au travers de ce cœur et de ces valves au nom de Jésus. Je déclare harmonie dans ce corps, harmonie dans ce cœur, au nom de Jésus. Il y a quelqu'un, vous avez des problèmes de genoux, peut-être des problèmes de cartilage usé, ou peut-être des muscles ou des tendons dans le genou qui ont été heurtés, qui ont été abîmés. Mettez vos mains sur vos genoux, au nom de Jésus. Puissance au nom de Jésus. Au nom de Jésus, allez maintenant pour réparer ces cartilages, réparer ces genoux, réparer ces muscles, réparer ces tendons. Au nom de Jésus, sous le son de ma voix, je déclare que ces genoux sont réparés à l'instant même. Il y a quelqu'un, vous avez eu des migraines pendant très longtemps. Des migraines, c'est ce côté-là, c'est le côté droit. Vous avez des migraines, mettez votre main sur la tête. Au nom de Jésus, nous annulons cette douleur maintenant, à l'instant même. Nous commandons à cette migraine de s'arrêter maintenant, au nom de Jésus. Pas au nom de Jésus. Migraine, pas au nom de Jésus. Je déclare aux muscles des jambes. Les muscles et les... Il y a des kunema profenja castere de castororo. Les kande ike profe kiashtere. C'est dans le bas du dos. Ce sont les petites... les disques dans le bas de la colonne vertébrale. Vous avez eu un accident de voiture et vous avez eu des disques qui ont été... comment on appelle ça? Qui ont été compressés et ça vous cause de la douleur dans le dos, presque dans le bas des jambes. Au nom de Jésus, mettez votre main sur le bas de votre dos. Au nom de Jésus, je parle à ces disques. Soyez guéris. Puissance va pour rétablir, la puissance de Dieu va pour rétablir, réparer, fortifier, guérir ces disques à l'instant même. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Sote cabro feshtiande. Ole namaha shetare, i koste kiato rohoste, i etano koste, kite kabro feshtiande. Lode, nous te remercions, Père. Nous te remercions, Jésus, pour ce que tu as fait. Et Saint-Esprit, je te remercie que tu testifies de la puissance de Dieu, de l'œuvre qu'il a fait sur la croix. Tu testifies et tu témoignes, Saint-Esprit, de ce que le Jésus a fait sur la croix, en confirmant, je te remercie, Saint-Esprit, en travaillant, œuvrant avec la parole, en accomplissant des miracles, en guérissant ses corps, à l'instant même, au nom de Jésus. Je te remercie. Je te remercie. Prenez votre guérison. Acceptez-la. Prenez-la. Sachez que la puissance de Dieu, vous savez, quand Jésus a parlé au figuier, il a parlé au figuier et c'est 24 heures plus tard que Pierre s'est rendu compte, en passant par le même chemin, que ce figuier était mort depuis les racines. La puissance qui était dans les paroles de Jésus ont allé dans la racine du figuier et a commencé à le transformer depuis les racines. Alors, au son de ma voix, je remercie, Seigneur, que la puissance du Saint-Esprit rentre dans leur corps pour attaquer la racine de la maladie, pour la défaire, l'anéantir, l'annuler, l'arrêter. Et que cette puissance est en train de réparer leur corps. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, soyez bénis. Prenez votre guérison, elle vous appartient. Amen.
Merci d'avoir écouté ce message de victoire. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour votre vie spirituelle. Pour de plus amples informations sur le pasteur Joel Spinks ou encore sur l'Église de la Victoire du Québec, visitez le www.evqmedia.com. L'Église de la Victoire du Québec, pour l'amour de la francophonie.